La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Merci pour l'instant de ta parole. Merci parce que tu inondes ce lieu de ta gloire. Merci parce que tu inspires chaque mot, chaque phrase, tout ce qui sera dit. Dispose nos cœurs pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'audace. L'audace divine. On avait déjà reçu deux enseignements là-dessus, avec le docteur Gentile, avec le pasteur Kwame. Amen. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, peut-être juste revenir sur quelques points. Mais maintenant, on va aujourd'hui juste introduire et dimanche prochain vraiment entrer dans le vif du sujet pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin, il faut que tu prennes des risques. Dis à un voisin, si tu veux triompher dans la vie, il faut que tu sortes des zones de confort où tout est calme et tranquille. Dis à un voisin que tu ne peux pas réussir sans risque. Mais pas n'importe quelle façon de prendre des risques. Il y a la manière divine. Une chose pour laquelle je sais aussi que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur promesse, dans la manifestation de leur grâce, c'est justement ce caractère. Les hommes ont peur. Les hommes sont timides. On a toujours envie de faire comme tout le monde. Si tu veux réussir, pas réussir selon le monde, car la réussite selon le monde n'est pas la réussite selon Dieu. Réussir selon le monde, c'est avoir de l'argent. Réussir selon le monde, c'est peut-être être célèbre selon le monde. Mais la réussite de Dieu est différente. C'est une réussite qui te donne d'être épanoui, comme j'ai dit, à tous les niveaux et qui amène ta vie à être une bénédiction pour plusieurs et pour plusieurs nations. Alléluia. La gloire selon Dieu n'a rien à voir avec la gloire selon les hommes. Mais pour pouvoir y arriver, il faut dans la vie prendre des risques. Et je t'annonce déjà, je vais le dire plus tard. Et je t'assure que certaines fois, quand tu prendras des risques, tu vas échouer. Et ça va te faire très mal. Mais tu dois quand même encore prendre des risques. Alléluia. Alléluia. Un enfant n'arrive pas à marcher sur les deux jambes sans faire des chutes. Mais la maman ne pleure pas parce que l'enfant est tombé lorsqu'il apprenait à marcher. Lorsqu'elle voit l'enfant qui fait ses premiers pas, elle ne voit pas les chutes. Elle voit l'enfant qui marche. Les échecs font partie de la réussite. Tiens, voisin, prends des risques. Aie de l'audace. Alléluia. Alléluia. Et cette clé-là dont nous allons parler, qui est si importante, quand vous prenez le temps de lire la Bible, analysez la plupart des miracles. Analysez-les. Il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire ou que les autres ne voient pas. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle aurait continué à être malade. Jésus ne s'occupe même pas d'elle. Il y a des domaines dans votre vie, et je vous dis, la plupart des domaines dans votre vie, vous aurez l'impression que Dieu ne vous écoute même pas. Dieu ne pense même pas à vous. Jésus est en train de marcher au milieu d'une foule. Ceux qui n'ont pas d'audace dans leur vie sont ceux-là qui seront assis tranquillement sur l'endroit où était la femme. Peut-être qu'elle était sur une montagne, ou assis chez elle, puis elle dit, « Hé, Jésus est en train de passer. J'espère qu'il va se souvenir de moi. » Oh. Puis elle marche, ainsi elle marchait timidement. Et il n'a qu'à me regarder un peu. Non. Jésus ne s'occupe pas d'elle. Il y avait du monde autour de lui. Il était en train de s'occuper à gérer les personnes autour de lui. La femme n'était pas dans son programme. La dame s'est levée. Elle dit, moi je vais me lever et je vais aller toucher ce monsieur. Et quand je vais le toucher, je serai guéri. C'est de l'audace. Elle a osé. Elle a risqué quelque chose. Elle n'a pas regardé ce que les autres faisaient d'ordinaire. Parce que la Bible dit, en appelant cette histoire, qu'il y avait une foule autour de Jésus. Il y avait une foule autour de Jésus. Tout le monde était en train de toucher le Christ. Et la dame dit, si je le touche, moi je serai guéri. Pourtant, elle constatait très bien. Parce que pourquoi la foule était autour de Jésus? La foule était autour de Jésus parce qu'eux aussi, peut-être, ils attendaient des miracles. Eux aussi, ils attendaient une solution à un problème. Donc, ils étaient là. Chacun voulait lui poser son problème. Mais elle regarde tout le monde et elle dit, quand moi je vais le toucher, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres, mais moi j'irai, je le toucherai et je serai guéri. cette femme portèrent 12 années de maladie. Un mal que les meilleurs médecins de l'époque n'ont pas pu traiter. Elle va s'approcher. Elle ne va même pas demander un rendez-vous avec Jésus. Elle va juste toucher le pan de sa robe. Et Jésus va s'arrêter net. Quelqu'un m'a touché. Les disciples qui étaient là ont cru que Jésus devenait un peu bizarre. Comme j'ai l'habitude de le dire, imaginez-vous quelqu'un au milieu d'un bus de la Sotra. On est serré là-dedans et puis tu dis, quelqu'un m'a touché. Quand tu vas dire, quelqu'un m'a touché dans le bus, tout le monde va reculer. On dit, mon frère, on dit, le gars n'est pas normal. Hein? Parce qu'on se touche tous ici. Jésus a sorti la phrase, quelqu'un m'a touché. Et c'est là que vous devez comprendre qui est Dieu, comment Dieu a réagi. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas insensé. Les autres étaient en train de le toucher. Mais Jésus n'a pas considéré qu'il le touchait. La foule le touchait. La foule était là à cause de Jésus. Et la foule le touchait. Mais Jésus dit que la foule ne l'a pas touché. Parce que lorsqu'il dit quelqu'un m'a touché, ça veut dire vous les autres là, vous ne me touchez pas. C'est pas ça? Vous qui êtes là en train de me toucher, vous ne me touchez même pas. Vous pouvez venir à l'église pour faire des prières sans toucher Dieu. Or, vous êtes là à cause de Dieu. La foule, Jésus n'était pas au milieu des marchés. C'est à cause de sa notoriété, à cause de sa célébrité que la foule s'était assemblée autour de lui. La foule était là pour lui, le touchant. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire, il y a une seule personne qui m'a touché. Toutes les dizaines ou les centaines d'autres personnes, je ne sais pas ce que vous faites. Vous faites tout, sauf me toucher. Vous touchez mon habit sans me toucher. Et c'est là que les apôtres ont réagi en disant, ah mais maître, tout le monde te touche ici. Il dit non. Si vous venez à l'église, si vous agissez dans la vie, et qu'une force ne sort pas de la vie de Dieu pour venir jusqu'à vous, c'est que sûrement vous ne l'avez pas touché. Alléluia. Vous pensez que vous le priez, mais vous ne l'avez pas encore prié. Parce qu'une foule peut être en train de lever la voix, Père, Père, et puis Dieu va dire au ciel, quelqu'un m'a prié. On dit, mais nous tous on te prie ici là. Il dit non, parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Pour voir cela se manifester dans sa vie, cette femme a touché le Seigneur différemment. Elle a osé penser. On va voir que l'audace commence dans la tête. Elle a osé penser différemment des autres. Elle a dit, c'est vrai que tout le monde fait ceci, c'est vrai que tout le monde fait cela, mais pour moi sera différent. Elle a osé et la perte de sang qu'elle avait depuis 12 années a été guérie. Sûrement que tu as besoin de poser un acte, de prendre une initiative pour voir ta situation être transformée. Un mal qui perdure depuis longtemps pendant que tu es un bon chrétien a besoin d'une chose, de l'audace. Dis à un voisin, audace. Alléluia. Tu es encore trop timide. Amen. Quand vous lisez Marc chapitre 14, et même encore d'autres passages parallèles dans la parole de Dieu, il y a une femme qu'on appelait pécheresse. La Bible dit qu'elle était pécheresse. On l'appelait pécheresse. Certains traduisent par, disent qu'elle était prostituée. Je vous ai dit souvent, ça ne peut pas être la prostitution. Parce que c'était prostituée, on allait dire prostituée. Si on dit pécheresse, ça veut dire qu'elle a fait tous les péchés qui existent. Elle est diplômée en péché. Pourquoi? Simplement parce que nous tous sur la terre, nous sommes des pécheurs. Ok? Maintenant, si dans la société, on identifie une personne par pécheresse, ça veut dire que tout le monde a péché. Hein? Mais elle a fini elle le péché. Elle dit, elle a péché jusqu'à... Bah, nous tous, on pêche. Nous tous, on peut nous appeler des pécheurs. On regarde une femme, on dit une pécheresse. Ça dit, c'est son travail. Quand elle se lève le matin, péché, péché. À midi, péché. Elle est, c'est son métier même, pécheresse. Mais cette femme-là était tellement embourbée dans le mal. Elle a voulu s'en sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle a voulu s'en sortir. Mais elle a regardé le Seigneur. Et elle a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant elle. Elle est une pécheresse. Elle ne va pas à l'église. Ou bien même si elle va là, c'est pour pécher. C'est-à-dire, peut-être elle est là et puis elle regarde les souverains sacrificateurs. Elle veut les séduire, tout ça. Là. En tout cas, elle devait être dangereuse. Parce que quand elle est arrivée, il y avait un pharisien là, hein. On dit, non, on ne peut pas toucher cette femme. Et tout le monde la connaissait. Et cette femme-là va faire quelque chose d'innovant, d'inouï, de jamais vu. Elle va se lever, elle va prendre un parfum. Les personnes qui étaient autour ont dit que ce parfum-là, on aurait pu le vendre à 300 deniers. Dans un autre passage de la parole de Dieu, on comprend que un ouvrier, le salaire moyen d'un ouvrier, c'était un denier par jour. Donc 300 deniers, c'est le salaire d'une personne environ pendant 300 jours. Mais là, c'était le prix auquel on devait vendre le parfum, bradé. Ça veut dire que le parfum coûtait beaucoup plus que 300 deniers. Peut-être 400, ça veut dire une année de salaire. Elle va acheter un parfum. Même nos parfums actuellement, là, ça ne fait pas ça. Et elle va s'approcher du Seigneur. Elle va casser le parfum. Verser le parfum au pied du Seigneur. Les hommes qui étaient là, ils étaient choqués. C'est quoi ça? Ils ont vu l'argent. L'argent. C'est quoi ça? Et puis, ils ont commencé à se plaindre. Parce que cette femme était sortie de l'ordinaire. Elle a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais elle a fait du fond de son cœur. Et Jésus a dit cette parole. Ne l'embêtez pas. Elle a fait cela, moi, pour ma sépulture. Il va dire ceci. Aussi longtemps qu'on parlera de moi, on parlera d'elle. La preuve aujourd'hui, on parle d'elle. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Une femme diplômée des péchés est devenue une prédicatrice de l'évangile. Elle est devenue un modèle pour tous les croyants dans le monde, juste par un acte qui sortait de l'ordinaire. Elle a été audacieuse. Ce jour-là, ses péchés ont été pardonnés et elle est rentrée dans la promesse. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un avec moi? David avait été oint pour roi par Samuel. Vous connaissez le passage, non? Samuel est venu dire à David, tu es le roi, c'est toi que Dieu a choisi pour être le roi des Hébreux. Il va recevoir l'onction. Et puis subitement, il va se retrouver sur le champ de bataille parce qu'il était parti voir ses frères. Et là, on va lui dire qu'il y a un géant qui effraie tout le monde du nom de Goliath. Tout le monde fuyait devant Goliath. David va dire, ce gars-là, je vais aller les tuer. Je résume. C'est de l'audace. Mais par cet acte d'audace, David est rentré véritablement dans sa promesse. Ce que Dieu lui avait dit, s'est accompli. Alléluia. A commencé, a démarré par une attitude d'audace. Quelque chose qu'il avait. Et c'est quoi ces audaces-là particulièrement? Il y en a plusieurs formes. Mais vous avez vu les cas que j'ai cités? C'était pas des choses que Dieu leur avait dites. C'est-à-dire, c'est pas, tu vois pas Dieu qui vient de dire, David, va tuer Goliath. C'est comme quelque chose qu'ils ressentent en eux. Il n'y a pas une voix qui sort du ciel. Fils, fils. Ou bien une voix qui est partie voir cette femme-là. Ma fille, lève-toi. Va donner un parfum à Jésus. À Jésus. Non. On n'a pas entendu cette voix-là aussi qui parlait à la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Ma fille, la solution à ton problème, c'est d'aller toucher Jésus. Non. Quelque chose est sorti dans son cœur. Venez d'elle. Beaucoup de personnes ne voient pas les miracles. Tu ne peux pas voir des miracles, des choses extraordinaires. Si tu n'as pas d'audace. Si tu ne sors pas des zones de confort. Tu es trop ordinaire. Dis à un voisin, tu es trop ordinaire. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible encore, il est question en 2 Rois chapitre 7, de 4 lépreux. Dis avec moi 4 lépreux. Les lépreux dans la Bible étaient mis à l'extérieur de la ville. Et ces 4 lépreux avaient été jetés à l'extérieur de la ville. La Bible dit que le royaume de Syrie est venu faire un siège à la ville de Samarie. C'était la guerre. Donc ils ont fait un siège, ils ont entouré la ville. Et ils ont commencé donc à affamer le peuple. Il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus à boire. Il n'y avait pas d'eau. C'était difficile. Et les 4 lépreux là, tout le village, toute la ville commençait à mourir de faim. Au point où la sorcellerie à cause de la misère a commencé à se manifester. Vous savez, la sorcellerie là, elle règne quand il y a la galère. La pauvreté attire la méchanceté, la sorcellerie. C'est difficile, les sorciers même sont là. Tu vois, personne n'a rien dans le village. C'est là où le sorcier m'a mis. Donc, deux femmes qui avaient des enfants. Une dit à sa copine, mangeons nos enfants. Parce qu'on a trop faim. Non, mais lisez le passage. Hein. Et la première va donner son enfant, les deux vont le manger. Et au temps maintenant du second bébé, celle qui avait l'enfant dit, non. Moi, je garde mon enfant, on ne le tue pas ici. Et celle qui avait vendu, qui avait déjà donné son enfant à consommer, à manger, est partie voir le roi pour se plaindre. Le roi, faut dire à ma copine là, ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. On s'est entendu pour manger nos enfants. Quand le roi a entendu ça, il dit, c'est quoi? Mes amis, ça c'est la sorcellerie, non? Non, mais elles ont mangé cannibalisme, elles ont mangé la chair. Et non seulement elles sont sorcières. Et puis elles sont descendues même dans le cannibalisme. Et il y avait quatre lépreux. Donc tout le peuple était en train de mourir de faim. Et il y avait des personnes qu'on rejetait. Des personnes qui étaient bloquées. Peut-être c'est la situation de quelqu'un parmi nous. Tu es au banc de la société à cause de la pauvreté, de la galère. On ne regarde pas. Tu es hors de la ville. C'est-à-dire la vie. Les quatre lépreux, là, ils étaient hors de la ville. La vie se passe sans toi. Ta présence dans ce monde est égale à ton absence. La seule chose qui va te faire sortir, c'est l'audace. L'audace de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et ces quatre lépreux se sont assis, ils ont dit ceci. Et on va étudier ça après. Cette manière de raisonner. Ils ont dit ceci. Si on reste là où nous sommes, nous allons mourir de faim. Là, c'est certain. Si on rentre dans la ville, on va mourir de faim. C'est encore certain. Bon, si on va chez les Syriens qui nous entourent, non seulement on est Israéliens, donc ils peuvent nous tuer pour ça, et puis on est lépreux en plus. Et quatre. Ils vont penser que ce sont des sorciers, en tout cas des trucs bizarres. Ils ont dit, mais quand même de leur côté, il y a une petite probabilité qu'on vive. Ils peuvent avoir pitié. Donc, on reste, on meurt. On rentre dans la ville, on meurt. On va chez les Syriens. Il y a un peu de vie quand même. Mais là, ils risquent de nous tuer. Mais si c'est pour mourir, autant mourir en essayant. Ça, on va l'étudier. C'est une des caractéristiques de l'audace. Amen. Alléluia. Et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, or la veille, Dieu avait délivré le peuple. La solution était là. Dieu avait fait voir aux Syriens comme une armée étrangère qui venait les attaquer. Et ils avaient fui. Ils s'étaient échappés. Donc là-bas, il y avait à manger en excès. La prière du peuple qui était esclave avait été exaucée. Mais pour aller prendre l'exaucement, il fallait de l'audace. Les quatre lépreux ont eu l'audace d'aller voir. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que les Syriens étaient partis. Et ces hommes-là sont rentrés dans l'histoire de l'Église. Quatre lépreux. On n'aurait jamais parlé de ces quatre lépreux sans leur action d'audace. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses dans la vie. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu dans la vie, c'était la lèpre. En un seul jour, ils ont marqué l'histoire du monde. Ils ont sauvé tout un peuple juste par un risque qu'ils ont pris. Risque de mourir. Dis à ton voisin, tu dois prendre un risque. Tu es trop conventionnel. Tu es trop correct. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi encore, l'audace divine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audace? On va aller un peu vite maintenant. Je peux dire que l'audace, selon ce qu'on vient de voir, c'est prendre courageusement des initiatives qui sortent de l'ordinaire. C'est l'attitude d'essayer courageusement malgré les obstacles. C'est prendre des décisions inhabituelles. C'est l'attitude d'essayer quelque chose d'innovant. C'est prendre des décisions inhabituelles. Tu vas apprendre pendant ce séminaire, cet enseignement, à prendre les bonnes décisions et à décider. Parce que si tu décides rien, tu n'auras rien. La Bible dit ceci dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Il est dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Dans la version Darby, c'est dit ceci, aux décisions que tu prendras répondra le succès. Ça veut dire le succès, la réussite vient des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Si tu ne décides rien, tu n'auras rien. Si tu ne prends pas une décision spéciale, tu n'auras rien. Mais non seulement tu n'auras rien, mais ce qui est dramatique, c'est que tu ne vas même pas rentrer dans ta terre promise. Tu n'entreras pas dans ton destin. Chaque homme transporte un destin particulier. Chaque homme naît pour accomplir quelque chose ici-bas. Je vous le dis tous les jours, je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre et qu'on le saisisse et que tu sois conscient que tu es important. Il y a 6 milliards d'hommes sur la terre. Pourquoi Dieu nous a fait différents les uns les autres? Malgré le fait que nous ayons tous un nez, des yeux, une bouche. Mais personne ne se ressemble. Même des jumeaux sont différents. Ils ont des empreintes différentes. Pourquoi il y a tant de personnes et Dieu fait les choses de manière différente? Parce que chaque homme est unique. Or, vous savez que tout ce qui est unique a de la valeur, non? Ou bien vous ne savez pas ça? Mes amis, la richesse, la valeur d'une chose est fonction de la rareté de la chose. Tout ce qu'on trouve en abondance n'a plus de valeur. Ou bien vous ne savez pas ça? 1 milliard, c'est bien, non? Mais ce n'est pas compliqué d'avoir 1 milliard. Voilà. Bon, même 1 milliard, même, c'est trop loin. 1 million. Plus tu souffres, quand quelque chose est rare, tu souffres pour l'obtenir. Plus tu souffres pour obtenir une chose, plus cette chose-là a de la valeur. Donc, la rareté d'une chose détermine sa valeur. Or, toi, tu es rare. Tu es rare. Ou bien tu n'es pas rare. Tu t'es une fois vu quelque part? Non, est-ce que tu t'es une fois rencontré quelque part? Plus il y a des choses en grand nombre, moins elles ont de valeur. Si on trouvait des hommes comme toi, on allait dire, oh, alléluia. Maintenant, l'audace va commencer en quoi? Des choses, on va apprendre ça plus tard. L'audace va commencer en quoi? Le problème, c'est que vous avez l'impression que vous êtes comme les autres. Parce que vous regardez la couleur de votre peau, parce que vous regardez votre teint. Oh, vous êtes unique. Mais ce qui vous rend unique n'est pas d'abord manifeste. Ça se voit sur le visage, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et cette chose-là ne peut se manifester que par de l'audace. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. La Bible dit que tu es un roi. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ceux qui ont cru en Jésus sont des... On va doucement, réfléchir un peu. Tu es un roi. Non, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Non, mes amis, répondez-moi. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Dieu dit qu'il a fait de nous un peuple de rois, des rois et des reines. Tu es un roi. Non, non, vous savez, les gens aiment la religion. Laissez la religion, il faut réfléchir. Je vais vous choquer. Jésus, un des plus grands adversaires de Jésus, c'est la religion. Jésus n'est pas un homme religieux. Jésus a fait tout pour faire comprendre ça à l'humanité, mais on ne veut pas comprendre. Jésus n'est pas un homme religieux, c'est là notre problème. Jésus était un politicien. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord. Jésus fait la politique. Mais les gens voulaient à tout prix que Jésus soit religieux. Jésus dit, je ne suis pas religieux. Pourquoi vous voulez à tout prix me cadrer dans la religion? Ça, si vous ne disiez pas ça, vous n'allez pas avoir l'audace. Je vous dis, je commence à poser les bases. Vous allez voir pourquoi vous devez agir. Ok. Jésus était un homme politique. Il ne faisait pas la religion. Il n'a fait aucune école de religion. Est-ce que Jésus était sacrificateur, selon les hommes là? Est-ce qu'il était là-dedans? Est-ce qu'il a fait l'école des... À leur époque, il y avait des prêtres, l'école des pharisiens, les gens, ils avaient des... Tout ça. Jésus n'était pas là-dedans. Un jour, et vous savez, nous avons tous cette même erreur. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Et vous allez voir pourquoi vous ne prenez pas d'initiative. Je vais rentrer maintenant dans l'initiative divine. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise image de Christ. Jésus a posé la question aux hommes, qui dites-vous que je suis? Et la même question t'est posée. Jésus est qui pour toi? Lorsqu'il a demandé aux disciples, il a dit, qu'est-ce qu'ils, les gens disent quoi de moi? Est-ce que vous vous souvenez des réponses que les disciples ont données? Qui se souvient des réponses? Qu'est-ce que les disciples ont dit? On dit, les gens disent que tu es un prophète. On dit que tu es Jean-Baptiste. On dit que tu es Élie. Quand vous comprenez la réponse de Jésus, leur expliquez que tout ce que vous dites là, c'est faux. Jésus n'est pas prophète. Il n'est pas, on le voyait comme, dans tout Israël voulait à tout prix le voir comme un religieux. Et maintenant, Pierre, sous l'inspiration de Dieu, dit ceci. Il a, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Là, une phrase encore, il traduit ceci. Tu es le Messie. Le mot Messie, Messie, là, ça signifie un roi qui est oint. Donc, Jésus explique. Les hommes racontent que je suis un prophète. Si vous voulez, peut-être voyez-le dans un prophète d'une dimension plus puissante que les autres prophètes. Mais il dit, je ne suis pas là-bas. Je suis un roi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est né, les hommes ne sont pas venus pour dire, les mages, quels sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs? Ils n'ont pas demandé, où est l'homme de Dieu? Où est le bishop? Où est l'archevêque? Non! Jésus n'a pas ce titre-là. Un roi, c'est un politicien. Ou bien un roi, c'est pas... Alléluia. Un roi, il fait la politique. Bon, c'est pas grave, sois choqué, j'arrive. Sois choqué. Il fait la politique. Donc, mais pourquoi Hérode voulait le tuer? Pourquoi est-ce qu'il va vouloir tuer un prêtre? Non. On dit, le roi des Juifs est né. Il dit, quoi? Il veut prendre ma place. Mais plus tard, Pilate va comprendre qu'en fait, plus tard à sa mort, que Jésus parlait d'une autre manière de régner, qui n'avait rien à voir avec le système de royauté du monde. Pilate va dire, les gens disent que tu es le roi des Juifs à la mort de Jésus. Voilà 33 ans qu'il vit. On n'a pas vu un pays comme ça. Pilate est effrayé, il dit, tu es vraiment le roi des Juifs? Jésus lui a répondu, tu le dis. Je suis roi. Maintenant on dit, où est ton royaume? Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes des rois. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est Jésus qui est roi. Mais la Bible dit qu'il a fait aussi de nous des rois. Tu es une reine. Même, vous savez, j'ai dit la dernière fois, Jésus est né dans une bergerie où il y avait les pipis et puis les excréments de moutons. Mais quand même, les rois mages là, on dit, où est le roi des Juifs? Elle dit, le roi est né dans une maison précaire. Mais ça n'empêche pas qu'il est roi. Peu importe l'endroit où tu habites aujourd'hui, mais tu es une reine, tu es un roi. Alléluia. Alléluia. On dit donc, où est le roi des Juifs qui est né? Jésus était un roi. Et la Bible dit ceci, il a fait de nous un peuple de rois. Nous sommes aussi des rois. Nous sommes aussi des reines. Mais alors, mais c'est quoi notre royauté? Ça n'a rien à voir. Une fois les disciples, pour avoir la réponse, il faut aller dans un passage, Marc 9 ou bien dans d'autres passages de la parole, où les disciples se sont retrouvés pour demander à Jésus qui était le plus grand parmi eux. Il dit, mais parmi nous, qui doit être le chef? Ah, Jésus a dit, faites attention à la politique des hommes. Et pour eux, les chefs, c'est ceux qu'on a voté, qu'on a élu. Pour eux, les chefs, c'est ceux qui se servent des autres, c'est le gars qui vient, et puis tout le monde à ses pieds. L'erreur, ce que Satan a fait croire aux hommes, c'est de faire croire que la royauté est ce qui fait que vous en, ce qui bloque votre audace. L'audace divine, parce que là je m'en vais vers l'audace divine, c'est le fait que vous croyez qu'en fait nous, la royauté, la véritable royauté, est un règne sur les hommes. On ne règne pas, Dieu ne permet pas à l'homme de dominer l'homme. Genèse. chapitre 1 dit ceci. Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'il domine ou afin qu'il règne. Et il dit ceci. Vous devez régner sur les poissons. Mes amis, Jésus ne régnait pas sur les hommes. Jésus ne les dominait pas comme ça. Il ne contrôlait pas les hommes. Mais Jésus régnait sur les poissons. C'est ce qu'on avait dit à Adam. Quand il dit régner, il dominait le poisson. Il dit au poisson. Est-ce que vous avez vu Jésus ordonner à quelqu'un de croire? Jésus ne t'oblige pas. Il te demande ton choix. Mais au poisson, il ne lui donne pas le choix. Il dit, entre dans le filet. Le poisson entre. Il regarde une plante qui ne donne pas le fruit. Il dit, meurs. La plante le regarde. Il dit, ok, je meurs. Bref, vous allez comprendre ça plus tard. Amen. Alléluia. En fait, je vous explique pourquoi nous les chrétiens, les vrais fils de Dieu, ne prient pas pour la nourriture, ne prient pas pour les vêtements. Ça, ce sont des choses qu'on amène dans notre vie. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui prient pour ce qu'ils vont manger, qu'ils vont boire. Ça veut dire quoi? Qui prie pour la nourriture? Les païens, pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne prient pas pour avoir des vêtements. Ils les prennent. Ils ne prient pas. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus ou de ce que vous mangerez. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ce sont les païens qui demandent des choses comme ça. Ah, ça l'André, c'est en train d'enlever beaucoup de vos sujets de prière. Hein? On dit, ah, mais toi, tu as lu dans Matthieu 6, on dit, ce sont les païens qui prient pour manger. On t'entend de prier pour ton repas. Ok, bref. Dis avec moi, je suis un roi. Maintenant, juste ce que je vais t'expliquer. Parce que mon but n'est pas de prêcher sur la royauté, c'est le règne de Dieu. En quoi consiste notre royauté? Jésus a dit à ses disciples, pendant qu'il lui posait la question, ils étaient en train de discuter pour voir qui est le chef parmi eux. Jésus leur dit, dans mon pays là, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Quand vous comprenez bien le passage, ça veut dire, c'est celui qui amène un service. Amen. Qui, c'est quoi un service? Un service, quand vous comprenez bien le passage, il y a un don unique que Dieu vous a donné. Vous régnez quand ce don-là que Dieu vous a donné sert à la société. Quand vous êtes utile, vous apportez un service. Les hommes finissent par reconnaître que vous êtes au sommet. On va voir un passage. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Proverbe chapitre 18, verset 16. Dans la version d'Abil, il dit, les dons d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Ce passage traduit que les dons que tu as reçus de Dieu, c'est quoi les dons? Ce sont tes talents. Le talent, il y a une chose, il y a un savoir-faire que tu es unique au monde à le savoir-faire. Ce qui fait ton unicité. Amen. Alléluia. Il y a un savoir-faire unique qui est en toi qui va t'amener au sommet. Ramène-moi le passage de ce proverbe. Regardez. Dans la version Louis II, c'est dit les présents d'un homme. Mais en fait, quand vous regardez le mot grec, ça parle, c'est pas, c'est présent dans le sens de offrir ton talent. C'est pourquoi Darby traduit comme ça le don d'un homme. Pas don dans le sens de cadeau. Mais ton talent. Ton talent. Alléluia. Didier Drouba là. S'il vient chez toi, il sonne à ta porte. Tu vas le laisser rentrer ou bien? Tu seras content de le voir, tu ne seras pas content. Pourquoi est-ce qu'il a de l'influence sur toi? Pourquoi est-ce que tu le regardes? À cause de son talent. À cause de son talent. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Le football, là. Il est devenu extrême là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que le passage Jésus dit? Il dit, si vous êtes serviteur des autres. Et quand vous lisez le passage encore, ça peut traduire si vous êtes serviteur, je vais aller plus loin. Si vous êtes esclave de vos dons, c'est quoi esclave de vos dons? Si vous les développez, vous les maximisez, ça va vous conduire chez les grands. Vos dons, vos talents, votre savoir-faire, Il est en vous. Mais il est en vous, mais il ne peut pas grandir comme ça. Amen. Si je prends dans ma main un noyau de mangue, dans ce noyau-là, il y a quoi? Quand vous voyez un noyau, regardez à l'intérieur, vous voyez quoi? Moi, si je prends les... Oui, quand je regarde le noyau-là, je vois un manguier. Mais est-ce que vous voyez seulement un manguier? Regardez encore le manguier qui est dans le noyau. Regardez bien. Vous voyez le manguier qui pousse et il donne d'autres fruits. Donc, dans le noyau, il y a plusieurs mangues encore. Maintenant, dans les autres mangues qui sont dans... Il y a encore quoi? Des noyaux. Et ces noyaux-là donneront... Et ainsi de suite. Donc, regardez un noyau encore. Tenez un noyau dans votre main. Regardez-le. Qu'est-ce que vous voyez? Une forêt. Une forêt. Dieu ne vous envoie pas sur la terre sans déposer en vous une semence. Et cette semence-là, c'est comme une forêt. Et c'est quand vous l'exercez, quand vous le manifestez, que vous rentrez dans ce qu'on appelle votre règne. Drogba, il n'est pas le roi des rois en termes de... Je donne Drogba, je peux parler de Messie, je peux parler de tous ceux qui sont talentueux dans un domaine donné. Ils ne sont pas les rois de personne. Mais ils finissent, toutes les portes leur sont ouvertes. Tout simplement parce qu'ils ont développé ce qu'ils avaient reçu. Juste un talent. Ce soit les rois selon Dieu. Parce qu'à un moment donné, ce que tu as reçu est utile aux autres. Quand cette chose-là est extrême, mais le noyau qui est là, je vois une forêt. Mais est-ce que la forêt, pour que la forêt vienne, si je prends le noyau, que je le dépose sur, que je le mets ici, là, est-ce qu'il va donner un arbre? Pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas dans le bon environnement. Voilà. Donc, tout le monde a en lui-même un talent, un don. Mais le don ne se manifestera pas si vous êtes dans un mauvais environnement. L'environnement détermine la manifestation de votre fruit. Vous n'avez même pas... Je dirai ça plus tard. L'environnement. L'environnement, ça peut être tes amis, mon frère. Il y a des personnes avec qui tu marches où ton fruit ne se développera jamais. On ne choisit pas les parents, mais les amis, on les choisit. Mes amis, je ne dis pas ça pour toquer. Tu peux même dans une communauté où ton don ne va jamais sortir. Ce n'est pas que le don n'est pas là, mais l'environnement. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Tu as une richesse. Où tu es là? Tu as une richesse. Tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre au hasard comme ça? Tu as un trésor. Tu es rare. Toi-même, considère-toi. Mais, ton environnement. Amen. Maintenant, l'environnement là est déclenché. Ou bien tu le crées ton environnement par de l'audace. Parce que tu as la force de te déplacer, de te mettre dans la zone qu'il faut, de créer autour de toi l'atmosphère qui va permettre l'épanouissement de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen avec moi. Pour dire que l'audace divine te permet de manifester la grandeur que Dieu a mise en toi. Tu n'es pas un gaspillage. Alléluia. Mais tant que tu vas ressembler dans ce que tu fais aux autres. Or, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui t'amène à faire quelque chose qui est différent? C'est l'audace. L'audace de faire des choses différentes. Le manque d'audace te fait faire tout ce que les autres ont déjà fait. C'est ça. Tout le monde est... On dit qu'est-ce qu'on fait à Abidjan ici? On dit tout le monde est... Pour réussir dans la vie, il faut devenir fonctionnaire. Après, on dit non, fonctionnaire, ça ne marche plus. À un moment donné, on dit... Pour réussir dans la vie, tout le monde, cabine cellulaire, toute la population se trouve. Cabine cellulaire. Donc, cabine cellulaire a rempli Abidjan. Après, un moment donné, on dit, mon frère, quel est le domaine même qui marche dans la ville d'Abidjan? Quoi encore? Cybercafé. Donc, tout le monde est là. Cybercafé. Puis, tout le monde suit. On dit, qu'est-ce qui marche dans la vie? Les gens manquent d'initiative, de créativité. Or, tant que vous allez manquer de créativité, d'initiative, vous ne manifesterez jamais votre règne. Jamais. pour savoir qui vous êtes vous-même. Pour rentrer dans votre règne, comme David devait rentrer dans son règne après avoir reçu la prophétie, il faut que vous soyez audacieux. Il faut que vous entrepreniez des choses uniques qu'on n'a jamais vues. Amen. Ce ministère-là est arrivé ici par l'audace. J'ai fait des choses qu'on n'avait jamais faites ici. Qui a connu le programme d'adoration dans sa présence? Vous êtes dans sa présence? C'est un programme. J'ai eu à cœur de faire un programme où on adore Dieu exclusivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont repris. Ils essaient de faire. Mais j'ai eu à cœur de faire un programme où il n'y a pas de prédication. Tout le monde m'a dit, ah, les gens vont venir chanter seulement. Chanter. Abidjan, si tu ne leur expliques pas, dans une prédication, comment ils vont faire pour manger, comment ils vont faire pour avoir l'argent, ils ne viendront pas. Chanter. Je dis, on va adorer. On a obéi. On a agi. L'endroit ici est rempli. Le monde qui est à l'extérieur, la population d'Abidjan venait adorer le Seigneur. Et quand j'ai posé cet acte, ça a été une porte pour mon ministère, pour le ministère que Dieu m'a donné. Il a fallu de l'audace. Quelquefois, les personnes arrivent ici et disent, oh, on trouve que le culte est un peu différent, il y a des choses différentes. Mais c'est différent. Parce que j'ai compris que ce n'est pas par esprit de concurrence, parce qu'on va comprendre. Il y a deux choses. Il y a la prétention et puis il y a l'audace divine. Ce n'est pas pareil. Si vous ne manifestez pas ce que vous avez d'unique, vous n'atteindrez pas votre destinée. Vous êtes appelé à régner dans un domaine donné. Mais sans l'audace, vous ne pouvez pas y entrer. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen avec moi. Alléluia. Maintenant, donc sans audace, il n'y a pas de miracle. Sans audace, vous ne voyez rien d'extraordinaire. Maintenant, un peu rapidement, ce que je vais développer dans la suite. On va parler les oppositions à l'audace. La timidité, ainsi de suite, d'autres choses. La religion tue l'audace. Je disais tantôt que Jésus était un politicien. Mais c'est une politique, le royaume de Dieu. Jésus intervient dans tous les domaines. Tant que vous allez voir l'église comme un endroit où il y a quatre ministères, prêcher, chanter, servir, vous n'avez rien compris de l'évangile. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion, il est venu amener un royaume, un pays. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, pas que ta religion vienne. Pas que la religion vienne, que ton règne, que ton pays là, ce que tu fais au ciel, qu'on voit ça sur la terre. L'audace divine, l'audace ne concerne pas seulement se lever pour avoir l'audace pour prophétiser, ainsi par l'Éternel, non. C'est un pays, il y a l'économie là-dedans. Pourquoi vous n'êtes pas créatif dans l'économie, par exemple? Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Parce que vous avez l'impression que Dieu ne s'occupe pas de l'économie. Les gens pensent que Dieu ne s'occupe pas du sport. Les gens pensent que Dieu ne s'occupe pas de l'agriculture. Quand j'explique ça même au moment de l'église, quelquefois les personnes ne me comprennent pas. Je dis ici, bientôt, Dieu va ouvrir vos yeux pour comprendre. On va avoir un ministère de l'agriculture. Quand je dis ça, les gens disent, mais comment ça, ça veut dire quoi ça? On va avoir... Quand j'explique aux gens, on aura un ministère de la santé, les personnes sont là, on dit, on croit que c'est pour faire les soins de santé dans l'église. Je ne veux pas des soins de santé dans l'église. Ça là, c'est un département qui aide les frères. Ça, toutes les églises le font. Non. Je dis, nous sommes un pays. Ça veut dire quoi en tant qu'un pays? Un pays a des ministères. Et ça, le mot église. Le terme église, au temps de Jésus, ça ne voulait pas dire le temple. À cette époque-là, on appelait, comment dirais-je, le gouvernement de César. C'est ce qu'on appelait Ecclésia. Donc, quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, eux, à leur époque, ils l'ont entendu. C'est pourquoi quand Jésus a fini de faire un miracle de pain, vous savez, est-ce qu'ils sont venus le prendre pour le faire pape? Non, leur réflexe, c'était de le prendre pour le faire roi. Vous n'avez pas vu ça? Quand Jésus a multiplié les pains, si c'est un religieux, là, si son message était un message religieux, on dit non, là maintenant tu es le pape du pays, tu es le bishop, l'archevêque. Non, on dit on va te faire pour te faire président, entre guillemets, roi. Parce que son message était très politique. Parce que Jésus agissait dans tous les domaines, mais pas selon le monde. Il résolvait avec les services, et les il parlait de, qu'on peut résoudre les problèmes dans l'économie. On peut régler les problèmes d'agriculture qui existent. On peut régler les difficultés de la communication. L'église intervient dans tous les domaines en tant qu'église. Pas pour aller faire la concurrence, parce que notre royaume n'a rien à voir avec ce monde. Ce n'est pas un dirigeant. Je ne vous ai pas demandé d'aller être député, d'aller être maire. Ça, c'est la politique de ce monde. Je parle de la politique du royaume. Il y a en nous des solutions à l'économie mondiale. Certaines personnes transportent la solution à la crise mondiale dans leur cœur, ici. Certaines personnes détiennent, quand je dis la santé là, vous savez, chaque, je vous le dis toujours, mais je vais répéter pour que ça entre. Quand on parle des problèmes, on dit non, il y a la corruption dans tous les domaines. Je ne me plains pas parce que je sais que l'Église doit s'organiser pour répondre à cela. L'Église intervient dans la musique, dans tous les domaines. On va revenir là-dessus. Mais, pour que vous puissiez voir votre talent se manifester dans ce sens-là, il faut vous-même que vous compreniez que nous sommes dans un pays et qu'on intervient dans tous les domaines. Et que c'est comme ça qu'on sert Dieu, avec le talent. Jésus descend de David, pas de Moïse, parce que Moïse était un saint prophète. David était un roi. Jésus est en train d'expliquer que je suis fils de David, dans le sens que moi aussi j'administre un pays. Administrer, gérer un pays. Et l'Église transporte le même flambeau. Amen. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Bon, maintenant je vais arriver dans la partie que vous comprenez. Est-ce que vous avez compris? Qui a compris? Parce que si tu ne changes pas ça, tu ne vas pas prendre des bonnes initiatives. Tu vas prendre les initiatives que tout le monde a déjà faites. On dit quelle initiative? Toute ton audace là. J'ai venu chanter. Parce que ta vision là, Dieu, dans l'église, il y a quatre métiers seulement. On chante. Qui a dit ça? Il y a d'autres choses à faire. Mais les chrétiens ne peuvent pas faire d'autres choses. Parce que quelle est l'image qu'ils ont de Jésus? Ils ne voient qu'un religieux. Ils ne voient pas un roi. Donc, quand ils pensent solution à apporter dans l'œuvre de Dieu, ils ne pensent pas à solution à apporter à un pays. Ils pensent à solution à apporter dans une église. Ça fait la différence. Pourquoi les hommes ne servent pas dans l'église? Pourquoi vous êtes assis? Parce que quand vous dites, Jésus de vous dit, servez dans l'église, à quoi les gens pensent? Quand on dit de venir servir dans l'église, ils pensent à venir peut-être jouer au piano, ou chanter au micro, ou prêcher. Pourquoi vous limitez l'évangile à ça? On te dit c'est un pays. Dans un pays, est-ce qu'on chante seulement? Dans un pays, tout le monde est prédicateur? Alors, il y a tout le monde, il y a des designers, il y a tout le monde. Mais il y a une sagesse de Dieu. Ce qui fait que il y a tout. Il y a la médecine, il y a l'économie. Voilà. Joseph, il a reçu une révélation de l'économie céleste. C'est ce qui a fait qu'il a résolu le problème de l'Égypte et du monde. Vous faites André, c'est les hommes qui ont créé l'agriculture. C'est les hommes qui ont créé les plantes. Pourquoi l'Église qui parle du royaume de Dieu ne va pas s'occuper des plantes? Quand les plantes tombent malades, ça intéresse Dieu? Un chrétien qui est botaniste, qui travaille et qui fait des découvertes, qui aide, il est aussi en train de faire le royaume de Dieu. L'audace va se manifester dans ce sens-là. Mais votre vision est limitée. Limitée parce que Jésus vous pose, mais qui dites-vous que je suis? Mais vous dites, tu es un prophète. On dit non, je suis un roi. Tu dis roi dans ta bouche, mais tu penses prophète. Donc, il est dans le cadre de la religion seulement. On prie seulement. Ribaba, chakarababa, ribobobobobobobobo, ribobo. Tu n'as pas envie de prendre de l'audace, tu n'as pas envie d'être audacieux dans le domaine de l'économie où tu es, de l'agriculture où tu es, en sachant que ta créativité dans ce domaine-là, elle sert Dieu. Quand tu innoves et que tu découvres des choses qu'on n'a jamais découvertes d'un système économique, tu es en train d'adorer Dieu. C'est ce que Dieu attend. C'est un pays. Quand un frère va aller, il va regarder les plantes et qu'il va trouver comment est-ce qu'on peut multiplier la productivité du sol sans mettre des pesticides qui nous donnent tous les jours des cancers. Il a apporté la solution de Dieu. C'est ça, l'Église. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Eux veulent prier seulement. Quand on dit venir, on dit personne n'a qu'à dire quand on jeûne. Voilà le votre truc. On n'a qu'à gêner. Ma vie est bloquée. Mais les vies sont bloquées. Les trucs sont bloqués. Dieu ne répond pas parce qu'il n'y a aucune créativité, aucune initiative. Nos initiatives, quand nous parlons d'initiative, c'est seulement quelle initiative dans l'église, dans le temple là. Et quand nous sommes en train de faire quelque chose d'autre, on n'a pas l'impression qu'on est en train de servir Dieu. Saisissons. Amen, amen. Bon, bref. Maintenant, quelles sont les clés qu'on va étudier par exemple? Alléluia. Alors, donc, vous avez compris que si je ne prends pas de risques, je ne peux pas avoir des prodiges. Je ne verrai pas des choses excellentes. Si je ne prends pas des décisions, je ne connaîtrai pas le succès. Il n'y a pas de réussite sans risque. Dans le jargon humain, on dit qui ne risque rien n'a rien, en vrai. Donc, tu dois sortir de ta zone où tu es assis tranquillement, là, en disant, mon frère, je suis tranquille ici. Voilà. Si je trouve un petit boulot tranquille, relax, Si tu trouves un petit boulot tranquille, relax, et que tu meurs dans un boulot tranquille, relax, Dieu va te frapper au ciel. C'est quel gars? Tu es venu sur la terre, tu n'as rien apporté. Boulot tranquille, relax. Comment boulot tranquille, relax? Tu es un roi? C'est quel roi ça? Dans ton petit salon, tu es là, tu regardes ta télé. Tu as atteint ton destin comme ça. C'est ton destin qui est là. Je suis accompli. Alléluia, la télé. Tu as vu? Et puis dimanche, avec ta famille, vous prenez vos Bibles. Allons adorer. Allons adorer. Qui est comme au roi des rois. Roi des rois, roi des rois. Roi des rois. C'est ça Dieu? Juste ça? Juste ça? Mais c'est ça pour qu'elle dit les rois alors. Un roi, on règne sur un pays. Dans un pays, on chante seulement. C'est quel pays comme notre pays là? Comment on comprend que dans un pays comme le royaume de Dieu, on chante seulement? Tout ce qu'on fait, nous, ce qu'on sait faire dans le pays de Dieu, on dit tu es un roi, tu es un roi. Tout ce qu'il aime, c'est chansons. Comment il nourrit ses concitoyens? Comment est-ce qu'il aide la population? Dieu a créé les plantes. Il a créé les plantes. Il a dit non. Ça n'intéresse pas le royaume. Ça n'intéresse pas le royaume. Il crée la beauté. Dieu est le premier couturier. Non. Ça n'intéresse pas Dieu. Quoi? L'audace va te permettre de créer des modèles, des choses qu'on n'a pas vues. C'est de Dieu. Ce don-là dont je veux te parler, il vient pas seulement pour que tu chantes. Je t'ai dit, il vient pour que tu sois un très bon couturier. Un couturier qu'on n'a jamais vu. Alors quand les personnes verront tes modèles, on dit, waouh. D'où ça sort? Parce que je vous ai dit, Dieu est le premier couturier. C'est Dieu qui a cousu le premier habit d'Adam. C'est pas ça? Quand Adam était nu, il est sorti là. Qui a cousu? Ne pensez pas que c'était votre peau bizarre que vous dessinez dans vos livres là. Les gens dessinent une peau, on dirait Tarzan. On dit Adam et Ève. En Tarzan. Non, je pense que Dieu avait dû coudre quelque chose. Non, frère. Il a pris la peau. Un vêtement de cuir. Propre. Peut-être un blouson. En tout cas, je ne sais pas comment il était vêtu. Mais tout ce que Dieu fait est beau. Tout. Tout. La beauté vient de Dieu. L'excellence vient de Dieu. C'est le manque d'audace qui fait qu'on est médiocre. On n'essaie pas des choses nouvelles. On veut faire tout ce que tout le monde a déjà fait. Amen. Alors, mais comment fonctionne maintenant l'audace? Ce qu'on va étudier dimanche prochain. Je vais citer juste quelques points. Comment fonctionne l'audace? L'audace de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas l'audace. Qui sont tenter Dieu. Satan dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, il est dit, tu vas sauter et les gens vont t'attraper. Donc il dit, saute. Voilà, il y a des personnes qui posent des actes qui ressemblent à de l'audace, mais qui ne sont pas de l'audace, qui sont en fait des manières de tenter Dieu. Là, Dieu ne réagit pas. Si tu sautes du toit, tu vas mourir. Ce n'est pas de l'audace, on dit par audace. Je vais sauter du toit. La Bible dit, les anges m'attraperont. Tout ce que tu vas faire dans le but de te faire voir, parce que si Jésus sautait, c'était pour prouver qu'il était fils de Dieu. Tout ce que tu fais, je vais vous expliquer dans l'audace. Tout ce que tu fais pour t'affirmer devant les autres par esprit de concurrence n'est pas animé par Dieu. L'audace divine a la particularité de ne pas être, je ne fais pas quelque chose parce que je vais dépasser mon camarade. Dieu ne fonctionne pas par esprit de concurrence. Dieu fonctionne. Bon, on va expliquer après. Alléluia. Ça veut dire, vous ne pouvez pas avoir les révélations uniques de Dieu si vous fonctionnez en regardant juste vos concurrents. Et vous dites, je ferai mieux qu'eux. Pour qu'on dise, je suis le fils de Dieu. Dieu ne se compare pas aux hommes. L'esprit qui anime la créativité divine vient d'une imitation des choses célestes. Pas d'une concurrence avec les hommes. Les hommes progressent en... C'est-à-dire, c'est par orgueil. Comme tu as fait ceci, moi j'ai fait cela et puis on dit, voilà, je suis plus fort que toi. Non. C'est ça qu'ils discutaient pour parler de leader. Je lui ai dit non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas mon esprit, ça c'est l'esprit du monde. L'esprit de Dieu fonctionne par imitation. Maintenant, comment ces personnes-là peuvent prendre des risques? D'où vient ce risque? Le risque divin, l'initiative là. Ça vient, premièrement, on va étudier dimanche prochain, mais premièrement, l'audace divine ne commence pas par les choses de la vie de tous les jours. Elle commence par de l'audace vis-à-vis de Dieu, votre créateur. C'est-à-dire de l'audace dans votre relation avec Dieu. C'est comme ça que ça commence à étudier. Vous allez voir que Salomon, comment il a fait pour recevoir la sagesse de Dieu? Il était audacieux. Il a fait un sacrifice que personne n'avait jamais fait. Mais le sacrifice était destiné à Dieu. Vous voulez l'audace divine? Faites des choses pour votre Dieu que vous n'avez jamais faites et que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Adorez de manière originale d'abord. Ayez une communion avec Dieu. Ça veut dire, ne réfléchissez pas à, ah, je vais oser commencer une entreprise. Ne commencez pas par l'audace de l'entrepreneuriat. Commencez par de l'audace dans votre communion avec Dieu. Amen. Dis à un voisin, tu adores trop de manière standard. Il n'y a pas d'originalité dans ce que tu fais. C'est pour ça que quelquefois vous venez à nos cultes, au culte ici, il y a des pièces, il y a des mises en scène, le culte change. On ne sait jamais même ce qu'on va avoir. Sur un mois, deux mois. Voilà, parce que moi-même je sais que je n'aime pas la monotonie, je n'aime pas la monotonie aussi. La monotonie fatigue, c'est pas vrai? Alors, amen. Amen. Dans votre maison, comme ça, je vais dire ça aux femmes. Aide de l'audace. Changez quelquefois la déco de votre maison. Parce que quand c'est monotone, là, ça tue. Toujours le même divan, à la même place, depuis 10 ans. Ah, même si tu n'as pas l'argent, change de place. Non, 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 c'est vrai. Dieu a fait en sorte que l'homme ne supporte pas la monotonie. Parce que Dieu, même Dieu n'aime pas ce qui ne change pas. Or, la religion, justement, pourquoi la religion s'oppose à Dieu? Parce que la religion, elle est monotone. C'est toujours la même manière de prier. Tant, tant, tant. La religion est l'ennemi de Dieu. Dieu, c'est un pays. C'est quel pays où tout est pareil depuis que vous êtes là, le pays est même chose. C'est la religion qui fonctionne comme ça. Comprenez bien de quoi je parle. Amen. Alléluia. Priez, méditez la Bible. La Bible, c'est notre livre de loi, en fait, de notre pays. C'est la constitution de notre pays. Nous sommes dans un pays. Et il y a toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle la femme est venue adorer le Seigneur avec un parfum d'albâtre. Elle a fait quelque chose d'original. C'est parce que c'est ouvert. C'est de l'inspiration. On a envie de faire toutes choses. La religion, elle est stéréotypée. On commence le culte comme ça. Un, deux, trois. Pan, tout le monde s'assoit. À telle heure précise, on chante comme ça. À telle heure, on fait ceci. Ça embrouille. Dieu n'aime pas ça. L'adoration. Salomon vient. D'habitude, tout le monde sacrifie un bœuf. Lui, il arrive. Moi, je viens à 1000. Dieu dit, waouh. Quand Dieu a vu ça, Dieu lui apparaît en même temps la nuit en songe. Dieu dit, petit, petit. L'audace attire Dieu. Dieu aime ce qui est nouveau. Alléluia. Tout le monde adorait avec un seul bœuf à sacrifier. Un seul bœuf. Salomon dit, si on changeait le système. Il dit, on fait 1000 aujourd'hui. Quoi? Pendant que Dieu était, Salomon faisait 1000 tout le temps. Un jour, il a surpris Dieu encore. Il a fait 22 000. 22 000 bœufs. Dieu s'est révélé deux fois à Salomon. Deux fois. Deux fois, Salomon a vu Dieu. La première fois, il a fait quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. La deuxième fois, il a agi pareil. Mais toute cette forme d'audace est destinée d'abord à l'adoration de Dieu. L'audace divine. Je ne parle pas de l'audace des hommes. Hein. Commence par Dieu. C'est dans votre relation avec Dieu, là. Vous le provoquez avec des choses. Allez, on sait, Dieu-même ne sait même pas comment tu as fait ton culte aujourd'hui. Dieu qui te regarde avec curiosité. Ce petit-là est dangereux. Attention, il arrive au culte. Alléluia. Bon, les gars, ne faites pas aussi des choses trop bizarres dans l'église. Si ton audace vient embêter les autres, là, ce n'est pas bon. C'est pour toi-même. Voilà, tu as dit non, là, je vais faire karaté dans l'église. Non. Amen. L'audace commence là. On va voir un peu comment. Donc, la femme, tout son péché a été pardonné. Subitement, elle s'est inscrite dans la destinée de Jésus. Tout simplement parce qu'elle a adoré Jésus comme on ne l'avait pas adoré avant. Elle n'a pas regardé quelqu'un. Elle dit, ah, Jésus, c'est un roi. Elle a amené un parfum d'albâtre. Soyez un peu original. Amen. Alléluia. Ok. Deuxième chose qu'on va étudier, par exemple, vous savez quand j'ai terminé, l'audace divine. Vous pouvez avoir cette audace. Comment créer cette audace? Pour créer l'audace de Dieu dans votre vie, il faut améliorer ou bien changer votre manière de voir le monde. Tous les audacieux selon Dieu ont vu le monde différemment, voient le monde différemment. La manière dont vous percevez votre environnement va déterminer si vous serez capable d'oser, d'essayer quelque chose de nouveau ou pas. Comment Israël est rentré dans la terre promise? Quand Israël, avant d'entrer dans la terre promise, on est en Nombre chapitre 13. Israël arrive devant Canaan. Moïse demande à 12 hommes d'aller en Canaan pour visiter le peuple. Ils vont. Là-bas, ils découvrent qu'il y a des grands raisins, des fruits excellents, la terre est belle, tout ça. Mais il y a aussi des géants. Mes amis, dans votre terre promise, il y a toujours des géants. Ça veut dire, il y a des oppositions, il y a des obstacles. Et c'est là qu'intervient l'audace. à tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il y a des géants. Maintenant, la différence vient de comment on voit le monde. Alléluia. Lorsque les 12 reviennent, ils ont vu tous les mêmes choses. Hein. Il y a 10 qui disent, le pays est dangereux. Il y a des géants là-bas. À leurs yeux, on est comme des sauterelles. Nous-mêmes, à nos yeux, quand on se voit là, non, ils vont nous tuer. Non. Dieu a dit aux 10 là, vous n'y entrez pas. Mes amis, il y a 2 autres, Caleb et Josué, qui rentrent dans le même Canaan, qui découvrent et qui voient les mêmes problèmes et les mêmes choses que les 10 autres. Mais quand ils arrivent, ils ont un rapport différent. Leur rapport dit ceci. Ils sont venus dire, Moïse, non, le territoire que Dieu t'a montré là, c'est puissant. Pourtant, il y avait les géants. Regardez comment ils parlent. Waouh, c'est puissant. Là-bas, les raisins là, on dirait des balles de tennis. La terre produit. Non, les gens vont les écraser. Et puis, ils parlent de ce qu'il y a de beau. Les 10, Dieu a dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Caleb, Josué, vous deux, vous y entrez. La promesse est là devant vous. Mais comment est-ce que vous voyez les oppositions dans la vie? On rit souvent de ces personnes. Mais vous-même, comment vous voyez la vie? Quand vous voyez Abidjan, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez la crise ou vous voyez les opportunités? Tu ne sais rien. Tu n'entreprends pas. Tu n'as pas l'audace à cause de la façon dont tu vois le monde. Si tu veux avoir de l'audace selon Dieu, il faut changer ta perception et ta croyance des choses. On va apprendre à changer la croyance. On va apprendre à changer la perception. Goliath se lève devant Israël. Lorsqu'Israël le regarde, Israël voit un homme de 3 mètres de hauteur qui peut les tuer d'un seul coup de main. Vous savez ce que David a vu? David voit, eux ils ont vu un géant. David lui l'a vu, il voit qu'il dit tellement Goliath est géant, je ne peux pas le manquer avec ma lance-pierre. Les autres, tout le monde voit le même Goliath. David dit, le monsieur, il est vraiment balèze. Même si je suis maladroit, ça va le taper quand même. Tu comprends, non? Or, eux, ils voient Goliath. Ah! Qui va nous tuer! Quand tu regardes les difficultés, les audacieux, ceux qui finissent par rentrer dans leur destinée, ceux qui prennent les bonnes décisions, c'est ceux qui regardent le monde différemment. Lorsqu'ils voient, ils regardent toujours les opportunités et non le problème. Ceux qui échouent, regarde trop longtemps le problème. Les 4 lépreux, la différence, c'est qu'ils ont vu l'opportunité. Toi, à ta place, les 4 lépreux, là, tu as dit, mon frère, j'ai pas envie d'aller être égorgé. Entre mourir et égorgé. Vous comprenez, non? Parce que les Syriens, là, c'est pas la mort de la faim. Hein? On te tue, on t'égorge, on te torture. Comment tu allais voir? Entre mourir, torturé. Et puis mourir de faim, ou on ne sait pas, peut-être que par accident, quelqu'un va me lancer un fruit. Je préfère mourir de faim que de mourir. Vous voyez comment tu vois? Or, eux, ils disent, entre mourir, et ils voient que chez les Philistins, il y a une opportunité de vivre. C'est ce qu'ils ont regardé, ils sont partis. L'audace a une façon de voir le monde. On m'a raconté cela, on m'a dit que, vous savez pourquoi les Chinois sont la première puissance au monde? En ce moment, ils ne sont pas encore, mais il n'y a rien à faire là. Vous savez pourquoi? J'ai appris que dans leur pays, les Chinois n'ont pas un mot. Le mot crise n'existe pas en chinois. Crise, ça n'existe pas dans leur langage. Si on dit tu prêches, puis tu dis la crise économique. Un chinois, ce n'est pas traduit. On dit parce qu'ils ont un autre mot. Ils traduisent par crise, malgré leur vocabulaire qui est très fourni. On dit le mot que les Chinois utilisent pour traduire par crise, c'est opportunité. Lorsque le monde se lève et puis ils disent crise mondiale, en Chine, dans les télévisions chinoises, on entend opportunité mondiale. Parce qu'une crise est toujours une opportunité. C'est ce qui fait que tu essaies quelque chose que les autres ne font pas. Une crise, où il y a un problème, il y a quelque chose de glorieux. Le problème attire la gloire. Les problèmes sont intéressants, frère. Parce que c'est là qu'on fait la différence. Oh, on dirait que quelqu'un ne comprend pas bien.
Alléluia.
Donc quand on dit, non, c'est leur langage, hein. C'est pas, il ne faut pas exprès. Il n'y a pas le mot crise, ça dit problème là. C'est la raison pour laquelle, quand l'Occident a dit, il y a la guerre en Afrique, eux, ils ont commencé à fuir. On a dit, il y a guerre en Afrique. Les Chinois ont entendu, il y a opportunité en Afrique. Pendant que les pays étaient en crise, ils sont venus investir. Ils ont entrepris. Et en ce moment-là, ils vont devenir bientôt les premiers investisseurs dans l'Afrique. S'ils ne le sont pas déjà. Pendant que tout l'Occident est en train de fuir l'Afrique, eux, ces menaces sont en train de voir. Waouh, l'Afrique, l'Afrique. On dit non, il y a les génocides. Il dit, ça veut dire, il y a une opportunité. Où il y a génocide, il y a opportunité. On dit non, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, waouh, il y a une opportunité. Ça fait la différence et ils osent. Et vous les voyez ici. On dit, en Côte d'Ivoire, on ne trouve pas de travail. Ils ont, même moi, ils étaient dans les rues en train de vendre chips. Il y a une opportunité, même dans la vente des chips. Où qu'il y a la crise, c'est pendant la crise africaine et la déchéance de l'Afrique que les Chinois sont entrés dans ce continent. Les pauvres comme les riches. Et les premiers qui sont venus même sont les pauvres. Parce que où il y a crise, il y a opportunité. Qu'est-ce que vous voyez quand vous promenez? Quand vous marchez dans la ville, qu'est-ce que vous voyez? Les problèmes ou les opportunités? Tu peux venir tous les jours à l'église. Si tu n'as pas d'audace, tu ne vas pas voir Dieu agir. Or, pour l'avoir, change ta perception. Change ta manière de voir. On peut voir les mêmes choses et les interpréter différemment. On voit un géant. D'autres vont dire, il est géant. Un autre dira, il est trop grand pour qu'on puisse le rater. Tellement il est grand, c'est intéressant pour moi. Là, je suis sûr de le taper. David n'a pas tremblé. Il dit, le gars, là, je vais le tuer. Parce qu'il faut, il dit, mais regarde ça. Un coup de caillou seulement, avant qu'il arrive, je lui lance. Le temps qu'il arrive, et puis il regarde comment il court lentement. Il vient comme ça. David dit, moi, je suis là, j'ai 17 ans. C'est-à-dire, je vais le dribbler. Mais David était content. Il dit, mais regarde, content, pourquoi ils ont peur de lui? Je vais le frapper. Or, des personnes, ils imaginaient, ils ne voyaient pas qu'ils pouvaient le dribbler. Ils imaginaient, si sa paume t'a saisi. Donc, lorsqu'il pensait à ça, il pleurait en même temps. Or, David voyait, il est lent. Quand il va faire un mouvement, moi, je peux m'éclipser. Et je lui lance encore une pierre. Je suis sûr que, avec 5 cailloux, ce monsieur-là va tomber. Donc David a pris 5 pierres. Mais c'est la première qu'il a terrassée sur le front. Parce qu'en ce moment, quand il a osé, Dieu a pris juste la première pierre et il a fait tomber Goliath. Il y a des Goliaths dans ta vie. Si tu n'es pas audacieux, si tu ne changes pas ta manière de voir, le problème va persister dans ta vie. Vous savez, les hommes ne sont pas créatifs, n'ont pas l'esprit de créativité, justement parce qu'ils ont peur. À cause de la timidité. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Ce que je veux faire, on n'a jamais fait ceci. Si ça échoue, oh, ça sera la honte. Ainsi de suite. Et tu es là dans ton coin, faisant ton petit boulot, cherchant un travail ordinaire, parlant avec les autres pour dire ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot, on ne trouve pas de travail. Qui t'a dit on ne trouve pas de travail? On ne trouve pas de travail, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Pourquoi tu dis que le monde est dur? Alléluia. En fait, c'est pourquoi moi-même, depuis un moment, j'ai changé mon langage. Je n'applique pratiquement plus le mot, il y a un problème. J'utilise toujours le mot, voici un challenge, un défi. Toutes les difficultés pour moi sont devenues des défis. Et je sais que, en tant qu'un roi, je suis né pour régner, pour dominer les problèmes, pour manifester la gloire de Dieu. Et toi aussi, c'est ce que tu es. Ne cache pas le géant qui est en toi par ta timidité. Ne te cache pas dans la foule. Avance avec ce que Dieu a déposé en toi. Tu obtiendras la guérison et tu rentreras dans le règne que Dieu te destine. Ensemble, parlons à Dieu. Prions le Seigneur.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.